France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le lundi 16 mars. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. France Inter dont les programmes seront bouleversés à partir d'aujourd'hui afin d'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité définies par les autorités de santé. Dans le 7-9, à partir de ce matin, notre objectif sera, comme toujours, de vous informer avec précision et rigueur. Mais la décision a été prise de confiner une très grosse partie de l'équipe qui interviendra de chez elle, par téléphone.
Oui, nous le redisons ce matin, respecter les consignes de confinement, maintenir la qualité de l'information et la continuité du service public, ce seront là nos boussoles dès aujourd'hui.
Et je vous ferai un point tout à l'heure sur les rendez-vous à l'antenne de France Inter. Ils sont bouleversés, je viens de le dire. Sur le fond, le 7-9 est aujourd'hui consacré à l'épidémie de coronavirus et aux résultats du premier tour des élections municipales. Nos invités, Léa.
D'abord, celui qui est devenu l'un des visages familiers de la crise du coronavirus. Ses points presse tous les soirs nous renseignent sur les phases de l'épidémie et le bilan en France. C'est le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, qui sera notre invité à 7h15.
À 7h50, fallait-il maintenir ces élections? Quid du second tour? Quelle analyse des résultats de la République en marche? C'est la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Ndiaye qui répondra à ces questions.
8h20, en dépit de l'abstention, il y a une claire poussée des écologistes dont on parlera avec l'eurodéputé Yannick Jadot.
8h30, le point sur les résultats, cette fois pour les Républicains et le Rassemblement National. Et enfin 8h50,
le directeur du département opinion de l'IFOP, Jérôme Fourquet, pour analyser les conséquences du coronavirus sur l'opinion et la relation à l'exécutif.
A tout de suite Léa. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Les titres de l'actualité ce matin.
Et y aura-t-il donc un second tour dimanche? De nombreuses voix s'élèvent déjà pour réclamer un report. Un premier tour marqué par une forte abstention dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Nous irons à Lyon, ville symbole de la forte poussée des écologistes. Comment circule-t-on ce matin dans les transports en commun? Yann Gallic nous attend Gare Saint-Lazare à Paris. Témoignage préoccupant du chef des urgences du CHU de Mulhouse, déjà saturé. Et puis le livre pour sauver ces longues journées passées à la maison.
France Inter.
Quid du second tour? Avant même l'annonce hier soir des résultats du premier tour, la question était sur toutes les lèvres. Il faut dire que moins d'un électeur sur deux s'est déplacé hier. Le taux d'abstention se situe entre 53,5 et 56%. Officiellement, le Premier ministre doit réunir aujourd'hui ou demain un conseil scientifique puis les chefs de parti pour prendre une décision. Mais certains élus se sont déjà prononcés, Élodie Forêt.
Une classe politique à l'unisson hier soir. Première à dégainer, Yannick Jadot, eurodéputé écologiste.
J'appelle solennellement le président de la République à faire prévaloir la santé des Français, et ce, dans la plus complète transparence. Et je lui demande d'organiser le report du second tour.
Un report réclamé par les Verts, le Parti Socialiste, le Rassemblement National, la droite ou encore la France Insoumise. Il faut sortir au plus vite de la confusion, dit l'eurodéputé Manon Aubry.
On a du mal à imaginer que dans les conditions actuelles, une campagne puisse se tenir pour le second tour. Comment aller convaincre les gens, même comment se tenir des réunions, la construction des listes pour le second tour, la fusion. Déjà que notre système sanitaire ne va pas très bien, ce serait dommage de faire une deuxième victime au passage avec notre système démocratique.
Reporter le second tour, oui, mais sans annuler le premier, précise Damien Abad, patron des députés LR.
C'est important que les résultats du premier tour soient validés pour pas qu'on donne le sentiment que les Françaises et Français se sont déplacés pour rien. Moi, je souhaite que ce premier tour soit validé, mais qu'ensuite, on réfléchisse aux modalités de ce deuxième tour. Ça doit être une décision qui doit uniquement se baser sur des faits scientifiques.
Des scientifiques que le Premier ministre Édouard Philippe consultera de nouveau cette semaine, tout comme les responsables des différents partis politiques.
La question est effectivement de savoir si les résultats du premier tour seront conservés en cas de report du second tour. Question en particulier, Hélène Philippe, pour celles et ceux, a priori, élus dès hier soir.
Alors, ils sont déjà 3 sur 11 ministres à pouvoir souffler. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, élu avec 60% des voix à Tourcoing dans le Nord. Le ministre de la Culture, Franck Riester, dans son fief à Coulommiers en Seine-et-Marne. Et la liste où figure Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, l'emporte à Vernon dans l'Eure. Édouard Philippe n'aura pas cette satisfaction, mais plusieurs autres candidats soutenus par LREM sont réélus. La maire sortante de Calais, Natacha Bouchard, et à Angers, le maire sortant Christophe Béchu, proche du Premier ministre, est également réélu. Il y a beaucoup de maires sortants, en fait, dans les élus de ce premier tour. À gauche, le socialiste Marc Gricourt à Blois, Sylvain Robert à Lens, Bernard Combes à Tulle, en Corrèze. Et puis à droite, Jean-François Copé est réélu à Meaux, en Seine-et-Marne, avec 76% des voix. François Baroin à Troyes, 67%. Joël Bruno à Caen. Le Rassemblement National, enfin, conserve plusieurs communes. Hénin-Beaumont, Steve Briouard récolte 64% des suffrages. Fréjus, avec David Racheline. Victoire également de Robert Ménard, le maire apparenté RN de Béziers dans l'Hérault.
Édouard Philippe arrivé en tête, effectivement, au Havre, avec 43% des suffrages, soit 9 points de plus que le candidat communiste, mais avec un faible réservoir de voix pour le second tour. Parmi les grosses surprises politiques de ce premier tour à Marseille, c'est la liste d'Union de la Gauche qui devance la liste LR de Martine Vassal. À Bordeaux, le candidat écologiste talonne le maire sortant LR moins de 100 voix d'écart. Autre illustration de la poussée des écologistes Lyon, Grégory Doucet, inconnu du grand public, arrive en tête avec plus de 28% des suffrages. Le candidat soutenu par Gérard Collomb arrive en troisième position avec moins de 15% des voix. Échec de Gérard Collomb également à la métropole. Réaction amère hier soir de l'ex-ministre de l'Intérieur.
Sur la ville de Lyon, il y a incontestablement une poussée des Verts. Mais en même temps, il y a aussi le fruit de nos divisions. Si on ajoute en effet les deux listes de l'ancienne majorité, on s'aperçoit qu'on serait partout en tête et qu'on serait en position de pouvoir l'emporter sur le second tour. Je pense donc qu'une erreur a été commise et qu'aujourd'hui il convient de la réparer. Moi j'appelle donc les électrices et les électeurs à pouvoir, pour le deuxième tour, s'il a lieu, se rassembler autour des listes que nous avons présentées et qui peuvent encore l'emporter sur Lyon.
Propos recueillis par Christophe Vincent à Paris. Net avantage pour Anne Hidalgo, 30% des suffrages, 23% pour Rachida Dati, 17% pour Agnès Buzyn. Les candidates socialistes en tête également à Lille, Martine Aubry, et à Nantes, Johanna Roland. À Toulouse, le maire sortant LR, Jean-Luc Moudin, qui est en tête devant l'écologiste Antoine Maurice. Tous les résultats sont à retrouver sur franceinter.fr. Il est 7h07 sur Inter, le début d'une semaine sans précédent en France. Depuis le passage en stade 3 samedi soir et l'annonce de la fermeture de tous les bars et restaurants, la vie a changé. Nous allons revenir sur ce qui est désormais possible ou pas de faire. Mais d'abord, bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter ce matin, Gare Saint-Lazare à Paris. Alors, y a-t-il du monde ce matin ?
Il y a moins de voyageurs qu'à l'accoutumée ici à la gare Saint-Lazare, vous vous en doutez, mais nous avons vu quand même pas mal de monde, des franciliens qui ont pris le train pour venir travailler, malgré l'incitation du gouvernement à limiter au maximum les déplacements. Certains des voyageurs que nous avons croisés ce matin disent qu'ils n'ont tout simplement pas le choix, car ils ne peuvent pas faire de télétravail, soit parce que leur métier ne le permet pas, soit parce que leur entreprise n'a pas pris les dispositions nécessaires. Alors pour l'instant, les transports en commun fonctionnent presque normalement. À la SNCF, près de 70% des trains circulent. Aucune perturbation prévue sur les lignes de RER A et B qui transportent chaque jour près de 2 millions de passagers. À la RATP, le trafic est quasi normal pour les bus et les tramways, avec 80% des métros en circulation. Mais les prévisions de trafic pourraient être revues à la baisse dans les prochains jours, surtout si le gouvernement décide de renforcer encore le confinement de la population.
Merci Yann Gallic en direct de la gare Saint-Lazare pour Inter ce matin avec Thomas Robin pour les moyens techniques. Alors tous les établissements scolaires sont également fermés. Seul un accueil est assuré pour les enfants des personnels soignants. Pour le reste, tour d'horizon des commerces ouverts ou fermés avec Laurent Kramer.
Les théâtres, cinémas, musées, salles d'exposition et bibliothèques doivent rester fermés. Tout comme les établissements sportifs, les piscines, salles de sport et discothèques. Du côté des commerces et jusqu'au 15 avril également, les restaurants, cafés et débits de boissons ont l'obligation de fermer, avec néanmoins la possibilité de maintenir leurs activités de livraison de repas à domicile. Les auto-écoles, les tribunaux, comme tous les lieux accueillant du public, doivent rester fermés. Tous les centres commerciaux et commerces non essentiels ne sont pas non plus autorisés à ouvrir. Au final, seuls les magasins d'alimentation, grandes surfaces alimentaires, mais aussi les pharmacies, établissements de santé, les banques, les magasins de presse et les stations-service ont l'autorisation autorisation de maintenir leur activité.
En France, le bilan de l'épidémie de Covid-19 est de 127 morts, 5 423 cas, dont 400 personnes en réanimation. L'objectif, bien sûr, est d'éviter la saturation des services de pointe, comme c'est le cas à Mulhouse, l'un des foyers de l'épidémie. Marc Noiset est le chef du service des urgences de l'hôpital de Mulhouse Grand Est.
La situation s'aggrave sur les 3 derniers jours, nettement, avec un nombre de patients hospitalisés avec des critères de gravité qui augmentent de jour en jour. L'hôpital a transformé 135 lits pour accueillir ces patients-là. Et on arrive au bout des situations d'accueil pour ces patients Covid. Et fait récent, depuis 2 jours, on a des patients avec des critères de gravité extrême qui augmentent. Rien qu'aujourd'hui, 8 patients qui ont nécessité une ventilation mécanique et donc des lits de réanimation. Et ces lits de réanimation, malgré les efforts d'organisation faits dans l'établissement, sont rares, de plus en plus rares. Mulhouse et Colmar sont complètement saturés et on est obligé de transférer nos malades à l'extérieur de la région. Donc il y a une vraie problématique sur les lits de réanimation et sur le matériel nécessaire pour prendre en charge ces patients très graves.
Un témoignage recueilli par Patrick Janton. Alors dans ce contexte où les heures des parents et des enfants vont parfois sembler bien longues, certains ont eu la bonne idée samedi de faire le plein de livres. Reportage au Mans de Clémentine Sabrier.
Marie, 10 ans, sort de la médiathèque Louis Aragon, les bras chargés de livres.
Là, on va travailler que 3 heures par jour, donc on aura plus de temps pour lire. Puis en plus, toutes les activités sont annulées.
C'est pour ça que Cécile est venue avec ses fils de 11 et 14 ans.
On a fait le plein, donc on a rempli nos cartes au maximum de livres de la médiathèque. On a 12 par carte, hein, le maxi.
Un peu plus loin, à la librairie Doucet, Adeline passe en caisse avec sa fille de 4 ans, Leïla, et son fils Arthur, 5 ans. Ils ont acheté plusieurs carnets.
Là, c'est activité. L'autre cahier, c'est pour dessiner. Mon cahier de coloriage.
La photocopieuse va marcher à fond aussi pour le faire durer, je pense. Et un petit livre pour chacun, pour le plaisir d'avoir un nouveau livre.
Il y a beaucoup de monde, alors que depuis plusieurs semaines, la fréquentation était en baisse, remarque Marie-Adélaïde Dumont, la responsable.
Les parents arrivent pour prendre de quoi occuper leurs enfants. Que ce soit en activité manuelle, que ce soit en jeu, que ce soit en livre parascolaire. Ça, c'est quelque chose de très important et les parents ont besoin de stocker.
La patronne de la librairie Doucet note que les adultes prévoient aussi pour eux, notamment avec des gros ouvrages et des beaux livres.
Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de faire le plein, il reste la possibilité de télécharger des livres.
Merci Agnès Soubirande.